J'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canut. Si vous nous rejoignez, il est en tout cas l'heure de rester avec nous, on l'espère, pour une heure de Canut Info. Nous sommes le jeudi 2 mai 2019, au micro jaune et à la technique, il y a Laurent.
Bonsoir Delphine, toi t'es au micro bleu aujourd'hui.
Et oui, voilà, c'est ni rouge ni noir. C'est comme ça,
c'est pas normal,
il y a des jours sans. En tout cas, on va beaucoup vous parler de 1er mai ce soir, et ben oui, hein, lendemain de défilés, de manifestations, et puis aussi de
bordel en tout genre.
Voilà, et puis de petits pots aussi de Radio Canut sur la place Satonnet. On vous parlera d'autres choses, on vous parlera de profiteurs, d'énergie, d'environnement, voilà, et puis on espère pouvoir terminer ce Canut Info en vous parlant d'un film japonais qui est déjà, à notre avis, un film culte qui restera en tout cas dans une liste personnelle du top 10 à revoir et à revoir et à revoir. Ça s'appelle Ne coupez pas, comme ça si on n'a pas le temps d'en parler.
On aura le temps.
Bon, bah alors voilà, comme ça sinon vous savez qu'il faut aller voir ça. Alors juste pour vous dire que c'est pas parce que le 1er mai est passé, on vous rappelle que le 1er mai n'est pas la fête du travail mais bien la fête des travailleurs et des travailleuses, parce qu'on continue à avoir des médias qui nous parlent de fête du travail.
Les médias, les politiques, Macron qui se croit le digne héritier de Pétain en utilisant ce terme inventé, on le rappelle, et popularisé par le maréchal Pétain. Donc oui, ils sont tous les héritiers de ce triste personnage et ils oublient tous que c'est la fête des travailleurs et des travailleuses.
Et donc, par exemple, il y a des gens qui continuent. On a par exemple 12 salariés d'Amazon du site de Sevray qui aujourd'hui sont devant le Conseil des Prud'hommes de Chalon pour attaquer Amazon et pour faire enfin appliquer la convention collective qui les concerne. Il faut savoir qu'en février dernier, le Conseil des Prud'hommes d'Orléans a déjà tapé sur les doigts d'Amazon qui ne respectait pas cette fameuse convention collective des commerces de détail non alimentaires. Donc on espère que ces 12 nouveaux salariés vont gagner évidemment face à cette multinationale. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avocat, on rappelle, pour attaquer son patron. Avoir des camarades syndiqués, ça peut aider, mais en tout cas c'est toujours bien d'être collectif parce que des fois les procédures sont longues, mais c'est aussi, ça permet d'être mieux formé, de s'auto-former et d'avancer. En tout cas là, la lutte elle est là. On pourrait aussi rappeler qu'il y a une lutte dans l'éducation, que par exemple à Vaux-en-Velin il y a des enseignants qui se battent pour qu'il n'y ait pas une mise aux enchères de notre éducation. en tout cas celle des élèves et des enfants, parce que c'est déjà bien attaqué. Donc voilà, il y a des gens qui se mettent en grève. On rappelle aussi qu'il y a toujours le mouvement Jamais sans toi. Il y a des lieux qui sont occupés parce qu'il y a des familles qui se retrouvent à la rue.
Oui, et puis la problématique importante pour Jamais sans toi et puis pour tous ceux qui s'occupent de celles et ceux qui sont à la rue, c'est que on est sorti du plan hiver et que là c'est la grosse galère maintenant, puisque les pouvoirs publics estiment qu'une fois que l'hiver est passé, on a le droit de crever dehors.
Exactement. Hein, et d'ailleurs, tous les chiffres montrent que quand on est dans la rue, on crève l'hiver et l'été.
Et ben même plus l'été que l'hiver.
Voilà. Parce que voilà. Donc il y a des mouvements qui sont toujours là. Il n'y a pas que le 1er mai pour se mobiliser. Il y a des personnes qui continuent à être en grève. Il y a des postiers dans le centre de la France qui sont en grève. Il y a une tirelire qui on peut mettre des sous pour les soutenir. Les postiers, c'est tout le temps à travers la France qu'il y a des mouvements de protestation, des mouvements de grève. Alors il y a une manifestation le 9 mai prochain. En tout cas, il y a une mobilisation, quelle que soit la forme que celle-ci puisse prendre pour les cas particuliers et pour les cas collectifs. En tout cas, c'est un nouvel appel à se rassembler et à lutter tous et toutes ensemble. Et puis, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de M. Macron, mais on essaye encore de nous faire des petites entourloupes. Aujourd'hui, on nous a donc annoncé qu'on allait gagner 3 milliards d'euros de pouvoir d'achat en 2019. Nous tous et toutes, salariés et fonctionnaires. C'est quoi l'entourloupe ? Eh ben, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires.
Ah ben moi j'en fais pas, et t'en fais toi ?
Alors moi, de toute façon, quand j'en fais, je les récupère. Donc comme beaucoup de travailleurs et de travailleuses, on fait des heures qui nous sont rendues en temps de travail et non pas en argent et en pépette. Alors on voit dans les médias des beaux exemples qui nous expliquent comme en moyenne on fait 11 heures supplémentaires par mois, ce qui ne veut absolument rien dire cette moyenne, puisque
comme toutes les moyennes d'ailleurs.
Voilà, ça on n'arrête pas de le dire. Mais alors celle-ci, elle veut absolument rien dire, puisque si on prend les 6,8 millions de salariés du privé, je vois pas bien comment on va calculer cette belle moyenne, mais en tout cas c'est le chiffre qui nous est donné sur le premier trimestre 2019. Donc on nous dit que tout ça va être magnifique, on va récupérer l'argent. Et les exemples qui nous sont donnés, c'est que par exemple, si toi qui m'écoutes et que tu gagnes 1 500 € par mois, et ben tu vas récupérer 50 € de plus par mois. Alors moi, je voudrais juste te dire que c'est un moyen de mettre à bas, je vais rester poli, les 35 heures. Puisque si jamais tes 11 heures supplémentaires étaient systématisées chaque mois, ça veut dire qu'à un moment, on explose les 35 heures, et donc cette réduction du temps de travail sur lequel il est quand même pas mal de gens qui se sont battus. Hein.
Oui, mais il reste plus grand-chose de toute façon.
Non.
Mais elle n'est jamais passée même dans la fonction publique.
Ouais, alors... Et oui, puis d'ailleurs, en plus, il y en a qui reviennent sur la RTT, dans les fonctions publiques, tout ça, c'est bien compliqué. Donc voilà, on a encore des raisons de lutter, parce que ça, en plus, c'est vraiment de l'entourloupe. Hein, franchement, on va rien gagner, d'autant plus que ça concerne pas tout le monde. Et puis, si jamais vous en faites beaucoup, des heures supplémentaires, bah peut-être falloir vous plaindre et commencer à demander qu'il y ait des embauches dans votre entreprise, et non pas empocher l'argent qu'on vous donne et qui vous permet aussi de vous faire taire. Je m'excuse si je vous rentre un peu dedans, mais n'empêche que c'est ça aussi, c'est comme ça que le patronat nous tient, c'est en nous donnant des petites primes, en nous donnant de l'argent sur des heures qu'on va faire en plus, au lieu d'embaucher des gens et donc de partager le travail et donc de partager l'argent. Mais comme évidemment le patronat ne partage pas l'argent, c'est pas un principe qui les concerne beaucoup. Voilà en tout cas pour cette introduction, et on s'est dit qu'on allait d'abord évidemment parler de ce qui s'est passé à Lyon dans le cadre donc de ce 1er mai 2019.
Oui, puisque comme d'habitude, une manifestation syndicale avec le particularisme de cette année et la présence de personnes avec des gilets jaunes devant la manif, avec aussi quelques militants d'extrême gauche anarchistes, on va dire, au sein de la manif. Donc voilà, le départ a été donné classiquement la place Jean Massé maintenant. Ça fait quelques années que ça part de là-bas. Le cortège est avancé tranquillement pour aller sur la place Bellecour de manière assez traditionnelle, dirons-nous, avec quelques particularismes en dehors des gilets jaunes. D'abord, on a vu des motards au sein même de la manif devant à un moment, sans qu'ils ne se fassent jeter, puisqu'ils faisaient partie, soi-disant, des manifestants en gilets jaunes, dont un motard particulièrement sympathique, j'ai trouvé, moi, avec un drapeau lyonnais d'un côté et un drapeau bleu-blanc-rouge de l'autre. Ça semblait pas être un militant syndical ni un militant gauchiste, hein, ça c'est sûr. On a vu aussi, autre particularisme assez incroyable, tout toujours ces quelques petits militants avec qui je me suis accroché il n'y a pas longtemps de l'UPR, qui ont été au tout début tout devant la manif pour faire quelques belles photos et après intégrés au sein du mouvement des Gilets jaunes avec drapeau Frexit, drapeau bleu, blanc, rouge, etc. Donc voilà, alors c'est quand même à vomir, quelque part, que tout le monde accepte que ces militants d'extrême droite, on rappelle l'UPR, c'est un parti d'extrême droite, pas raciste comme ils disent, mais xénophobe. Alors comme nous, on aime ni les racistes ni les xénophobes, on va pas soutenir ce genre de choses. Mais voilà, alors tout le monde a pas vu, parce qu'ils étaient tout seuls, ils avaient quand même un grand drapeau au milieu de du cortège des Gilets jaunes. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont pu faire toute la manif avec tout le monde. J'ai trouvé ça triste, plus que triste même. Bon, c'était pas la première fois, puisque la fois où je me suis pris à partie avec ces Gilets jaunes il y a une quinzaine de jours, ils étaient au sein de la manifestation des Gilets jaunes que j'ai croisé par hasard, parce que voilà. Donc bon, bref, quelques petites choses désagréables au sein même de la manif. Et puis après on est arrivé à Bellecour et les choses ont commencé à se dégrader puisque la police a décidé de ne pas être sympathique avec les militants et notamment avec les sympathisants de Radio Canut, puisque on rappelle que depuis peut-être 15 ans maintenant, une partie des militants de cette manif, notamment le cortège rouge et noir.
Alors, c'est le cortège rouge et noir qui avait été créé dans cette idée.
Oui, mais ça se faisait. Oui,
c'était le premier rendez-vous qui avait été créé comme ça, c'était d'être sous une bannière rouge et noire, c'est-à-dire d'être sous une bannière libertaire très large, ouais. Et dont, effectivement, on pouvait. À l'époque, hein, c'était la CNT, c'était la AFA, voilà, maintenant on a d'autres organisations qui sont. Qui maintenant c'est la CNT, la CGA, AL, qui sont à l'appel de cette manifestation. Et de ce cortège rouge et noir particulier.
Voilà. Et ce cortège rouge et noir, une fois qu'il arrive à Bellecour, qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint le repas de quartier avec les sympathisants rouge et noir et les sympathisants de Radio Canut. Certaines années, ça se passe plus ou moins bien, et cette année, bien que les renseignements généraux, c'est l'ancien nom ça, mais l'équivalent, aient contacté quelqu'un d'un syndicat rouge et noir, et lui ayant précisé qu'il ne nous autoriserait pas à traverser la presqu'île en son sein cette année, mais qu'il nous autoriserait à prendre les quais de Saône, la flicaille sur place a refusé de laisser partir les militants vers le repas de quartier de Radio Canut. Donc il y a eu des tensions, ça a mis du temps à partir. Grosso modo, ils ont mis presque deux heures, un peu plus d'une heure et demie, pour quitter la place Bellecour, en groupe en tout cas, et arriver enfin sur la place Satonnet. Il était possible de partir, mais en groupe de deux, en faisant des grands détours pour rentrer à la Croix-Rousse. Donc il y a une vraie volonté de la police de faire dégénérer les choses, de mettre la pression, d'avoir ce comportement liberticide, même s'il n'y a pas eu de grosses violences.
Non, il y a quand même eu des gens qui se sont fait gazer, les matraques ont été sortis.
Une fois que la manif, qu'ils ont pu partir. Effectivement, il y a eu des violences policières habituelles, hein, dirons-nous, avec les gaz et tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut connaître. Ce qui est incroyable, c'est quand même que les services de l'État autorisent ce groupe de personnes à passer sur les quais, et la flicaille sur place et le responsable sur place décide, de par son pouvoir autoritaire, de ne pas respecter ce que dit d'autres personnes. Alors, de l'État.
Ce qui était là, ce qui est les forces de l'ordre ou de sécurité, je ne sais plus bien comment ils voient.
Les forces de répression, dirons-nous.
Merci bien, c'était de la blague. Qui était en face de la manif rouge et noir, c'est-à-dire ce cortège avec une banderole de tête. C'était les gendarmes, c'était pas les CRS. Au début, c'était eux qui sont. Et quand on a vu le camion se coller au deuxième camion et bloquer la route, on s'est dit que c'était fichu. C'est là où effectivement, c'est monté en tension. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus on attendait, plus ce cortège grossissait. C'est-à-dire plus il y avait des gens qui se rassemblaient pour faire pression et pour pouvoir partir. Alors qu'en fait, ils nous auraient finalement laissé partir tout de suite. On aurait fait notre train-train. Il faut bien dire quand même que c'est en général très train-train. On va d'ailleurs assez vite. Ouais. L'idée était quand même de finir cette manifestation et d'aller festoyer tous ensemble place Satonnet. Donc on sent qu'il y a quand même l'idée de faire un petit peu monter la pression et la tension pour nous agacer, et puis pour qu'il se passe des choses, hein, peut-être aussi pour amener une certaine violence. Moi, je le vois en tout cas comme ça. Voilà, à part nous emmerder, pardon pour l'expression, je vois pas bien quel était le but de la manœuvre.
Oui, avec ça. On notera quand même dans les aspects positifs, cette année, le repas de quartier s'est très bien passé. D'abord, le beau temps était avec nous, c'était sympa. Et contrairement à l'année dernière, où les flics avaient tabassé, avaient chargé, avaient bloqué des gens de manière totalement autoritaire, violente, sans aucune raison, cette année, la flicaille n'était pas là, elle était occupée à gérer d'autres personnes. Et on remerciera au passage les gilets jaunes d'avoir détourné les flics de notre pas de quartier. Mais voilà, cette année, on n'a pas eu toutes les problématiques de pression policière, de haine qu'on a pu voir l'année dernière. La charge de l'année dernière est restée incompréhensible. Mais bon, seuls les policiers peuvent savoir pour quelles raisons ils décident à un moment de charger ou de taper sur des gens qui sont assis en train de boire des coups et manger.
Ouais, rappelons plus que c'était la BAC l'année dernière, hein, qui avait fini par charger. Et rappelons que c'est censé être un corps de police qui est censé être capable d'aller au contact. Donc c'est-à-dire que quand ils sont mis à gazer l'année dernière les familles, hein, avec des enfants en bas âge, qui ont dû courir en laissant les poussettes derrière eux, ces familles, c'était une volonté quand même précise, c'est-à-dire que c'était pas une charge de CRS, c'était pas quelque chose de loin. Voilà. Donc cette année on a eu de la chance, on a pu faire ça. Malheureusement effectivement, d'autres manifestants qui étaient partis sur les quais bien après se sont fait bloquer, se sont fait gazer, enfin comme d'habitude ça s'est pas très bien passé, et il faut bien le dire.
Voilà, c'est eux qui ont attiré tels des aimants les violences des force de répression,
ouais, mais c'est
de
malheureux,
l'État.
Ouais. Vraiment, voilà.
C'est à toi. Tu voulais parler de Monsieur Barbier que je ne connais pas.
Ah bah si, l'Express.
Quand l'Express.
Christophe Barbier.
Ah oui, c'est de lui dont tu parles. Mais des Barbiers, il y en a plein.
Éditorialiste. Ah oui. Tout à fait. Mais bon, je l'appelle Monsieur. Donc je vais vous parler de C'est dans l'air, émission de France 5 qui a été diffusée mardi 30 avril.
Tu regardes C'est dans l'air.
Bah, comment dirais-je ? Des fois, tu sais, c'est un peu comme lire le Figaro.
Ouais, tu regardes les ennemis, tu as raison.
Mais c'est mieux en post-4 parce que comme ça, vous pouvez vous arrêter, reprendre votre respiration, aller vomir un petit coup puis revenir. Alors, oui, bah disons que là, ça me semblait quand même fortement intéressant. On retrouvait aussi monsieur le commandant Christophe Rouget, porte-parole du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Donc ça s'appelle le SCSI-CFDT. Ah voilà, qui était bien invité. Et alors monsieur Barbie nous a encore fait des petites choses sympathiques. Il faut aller donc à 16 minutes de l'émission. Et la grande question qui lui est posée, c'est a-t-on les moyens de les empêcher de débouler à Paris et ailleurs demain? Et c'est qui les Blablox? Parce que là, c'est Castaner face aux Ultras, c'est le thème de cette émission.
Oula, ouais, ça fait rêver du coup.
Pré-1er mai, ah bah ouais. Alors, cher monsieur Barbier, si il manque quelques mots dans la retranscription que j'ai faite, je m'en excuse, mais quand même, l'idée de ce que vous avez raconté est à peu près juste, hein, puisque je vais vous citer. Alors, il va nous expliquer que, en tout cas, cela se joue avant. Est-ce qu'on a le moyen, je vous rappelle, d'empêcher les Black Blocs, hein? En tout cas, cela se joue avant, quand ils sont formés en coalition de Black Blocs, comme on l'a vu sur les images, plusieurs centaines, plus d'un millier de gens qui forment comme une phalange qui rappelle les légions de César.
Les légions de César.
Donc il nous parle donc des images de l'année dernière, puisque juste avant il y a un reportage, hein, donc des images de l'année dernière, du 1er mai de l'année dernière. Comme on l'a vu sur les images de l'année dernière, plusieurs centaines, plus d'un millier de gens qui forment comme une phalange qui rappelle les légions de César. C'est à cause de cette phrase que j'ai décidé de vous parler de ce texte ce soir. Et il dit, donc, quand ça se forme, c'est trop tard. Car pour arrêter une telle cohorte violente, il faudrait utiliser de tels moyens que c'est prendre le risque qu'il y ait des morts. Et on ne le veut plus. On est dans une période où on ne supporte plus que la police, c'est-à-dire le bras armé légitime de la violence de l'État, cause des morts. On l'a vu dans d'autres moments de maintien de l'ordre, ça a été le cas à Sivens. Quand il y a un mort, même accidentel, ça traumatise l'opinion et on annule le barrage. Donc alors pour nous, je tiens à rappeler que le militant mort à Sivens n'est pas un décès accidentel. Voilà, Sivens, c'était pas un décès accidentel. Et donc, voilà. Donc, il le dit. Et il va le répéter plusieurs fois. En tout cas, il continue. Pourquoi on ne fait pas à Notre-Dame-des-Landes? S'il fallait évacuer par la force Notre-Dame-des-Landes, il y aurait des morts. La société n'accepte plus ce qui est peut-être un signe de maturité, nous explique-t-il. Et donc, les forces de l'ordre qui ne peuvent pas contrer les Black Blocs organisés, comme on l'a vu l'année dernière, sans utiliser de moyens d'action tellement violents que le risque qu'il y ait un mort, même accidentel, c'est-à-dire que sans qu'on ait la volonté de tuer, le risque soit maximum, on n'en veut plus. Quand ils sont formés, on les laisse faire. Donc l'explication de M. Barbier, c'est que notre société à nous, on ne veut plus de mort.
Et que c'est ça qui empêche
la police. De bloquer les Black Blocs.
Ah bah ouais, super.
Qui, rappelons-le, les Black Blocs sont une phalange qui rappelle les légions de César.
C'est pas mal.
Ça quand même, je pense qu'il va falloir se le garder en mémoire. Donc ils expliquent que c'est ce qui est devenu l'idéologie de notre société. Quand il n'y a pas de mort, tout est réparable. Tu peux perdre un œil, mais c'est réparable. Tu peux perdre la moitié de ta face avec une mâchoire arrachée, c'est réparable.
Ouais, il a une notion du réparable un peu bizarroïde.
Donc pour lui, il y a une solution. Une seule, c'est de les arrêter avant, dans leur car, les véhicules, dans les fouilles, trouver leur cachette. J'ai synthétisé le trouver leur cachette parce qu'il y a une petite phrase au milieu. Mais l'idée, c'est ça en fait. C'est parce qu'en fait, lui, il a bien analysé les images et il a compris que peut-être ils pouvaient, les Black Blocs, laisser des choses sur le côté, tu vois. Alors, quand on l'écoute, on a l'impression qu'en fait, ils sont venus la veille, hein, puis ils t'ont planqué des trucs, tu vois, derrière un arbuste, pour pouvoir les ressortir le lendemain.
Ah, ça serait intelligent de faire ça, ceci dit.
Ouais, alors on voit surtout aussi des personnes aussi te péter les pavés, t'arracher des bouts du mobilier urbain pour pouvoir s'en servir. Voilà, donc je voulais juste vous parler de monsieur quand même Christophe Barbier, parce que je pense que les phalanges et les légions de César, il va falloir s'en souvenir. Je voudrais juste dire qu'on pourrait aussi remettre la palme, je l'ai remis à Christophe Barbier, au Figaro, hein, parce que toi je lis aussi le Figaro, qui a titré Martinez, entre parenthèses CGT, alors moi je dis monsieur Martinez, ou enfin bon, Philippe Martinez, enfin bon là, contraint de s'écarter momentanément à cause des Black Blocs. Alors, même Philippe Martinez expliquait que c'est à cause de la police qu'il s'est écarté. On peut critiquer hein, toute cette affaire de le montage médiatique parce de la CGT.
Ouais, monsieur Martinez s'en va et les autres restent quand même, les autres militants. Hein. Donc, à un moment, monsieur Martinez, il faudrait qu'il assume son côté militant et pas simplement patron de la CGT.
Oui, mais il est allé répondre aux médias pendant
patron de la CGT, quoi.
Il est allé répondre aux médias pendant ce temps. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le Figaro arrive à renverser la situation sur un texte de l'AFP, mais un titre très Figaro. Vous voyez, voilà, je vous renvoie aussi sur le compte Twitter du ministère de l'Intérieur parce que c'est vraiment fabuleux. Il faut savoir se mettre une comparaison entre ce qui se passe sur le terrain et la propagande qui nous est donnée et c'est absolument magnifique. Voilà, et puis on va donc continuer avec la propagande.
Bah oui, puisqu'on va revenir sur cette affaire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donc hier à Paris. Une des grosses images, voire des images fortes hein, de ce qui s'est passé le 1er mai dans la capitale. On a vu plusieurs individus donc sont rentrés dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Grosso modo, les images sont relativement violentes dans le sens de rapidité de mouvement, mais pas dans le sens de violence physique, hein, dans le sens de rapidité de mouvement. La conséquence de ça, c'est qu'il y a quand même une trentaine de personnes qui ont été placées en garde à vue suite à cette intrusion, avec comme motif attroupement en vue de commettre des dégradations, des violences. Bon, ils ne les ont pas encore accusés de terrorisme, mais c'était pas loin. Et on va revenir sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu énormément de propagande gouvernementale, allié avec certains médias amis du gouvernement, et on a eu une journée de fake news en fait totale de la part du gouvernement. Alors ils ont fait une loi sur les fake news, on espère qu'ils vont être condamnés grâce à cette loi. On sait que ça n'arrivera pas, bien évidemment. Donc on reprend un peu l'histoire de tout ça. Alors il faut noter quand même que moi je suis pas toujours très fan du journal Le Monde ou de Libération des temps modernes, mais les deux journaux ont pas mal donné d'informations au fur et à mesure de la journée en essayant de casser le discours gouvernemental, donc c'était plutôt pas mal.
Il faut dire que les deux journaux ont les décodeurs pour Le Monde et Check News pour Libération, c'est-à-dire deux parties de chronique pour démonter les fausses informations.
Ouais, et c'est une des rares fois où ils démontent une fausse information du gouvernement quand même, donc c'était plutôt pas mal. On peut saluer quand ils vont dans le bon sens, parce que le reste du temps c'est pas terrible. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Donc ils rentrent dans cet hôpital. Alors en fait il faut connaître un peu Paris, ils sont dans le 13e arrondissement de Paris, sur le boulevard de l'hôpital, ça s'appelle comme ça, vers 16h, et d'un seul coup les forces de l'ordre chargent avec une quantité ultra importante de gaz lacrymogène, donc tout le monde part en courant. Donc ce mouvement de foule arrive devant le 83 du boulevard de l'hôpital, ils essayent de rentrer dans ce qu'est l'hôpital de la Salpêtrière, au 83 et aussi au 97 où il y a une grille fermée avec une chaîne, et ils vont casser la chaîne, il y en a qui vont monter sur la grille et ils vont arriver à rentrer dans l'hôpital. Pour poursuivi par la police. Il fuit la police. Il fuit les violences policières et il fuit les gaz. Donc ça, c'est les faits tels qu'ils se sont passés. Ils sont rentrés dans un service. Alors, ils sont éparpillés. Alors, la Pitié-Salpêtrière, c'est pas un petit hôpital. Hein. C'est un truc de 33 hectares avec 90 bâtiments. Donc, ça s'éparpille un peu partout. Il y en a qui montent dans le service de réanimation où les gens sont dans des situations critiques hein, quand on est en réanimation. Les salariés de l'hôpital essayent de leur dire de pas rentrer. Ils réussissent plutôt d'ailleurs à empêcher les gens de rentrer, non pas pour les exclure, mais pour leur dire si c'est pas possible d'arriver dans cet endroit-là de l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations critiques. Donc ça se passe finalement pas si mal que ça. Sauf que ce matin, le discours et hier soir d'ailleurs, dès hier soir, le discours de Castaner, le discours de Madame Buzyn, ministre de la Santé. Et le discours de Martin Hirsch, c'est de dire l'hôpital de la Salpêtrière a été attaqué. Ils ont tous utilisé ce mot-là, a été attaqué par des militants des Black Blocs, et tous dénoncent l'attaque d'un hôpital, c'est inadmissible d'attaquer un hôpital. Ça a été le discours. France Info a beaucoup fait de choses là-dessus, sur l'attaque, en reprenant telle qu'elle, sans enquêter. Et puis en fait, plein de vidéos sont sorties, plein de témoignages sont sortis, des témoignages des militants qui étaient là. Bon, tout le monde s'en fout. Par contre, des témoignages des salariés de l'hôpital, des infirmiers, des médecins, qui disent tous, mais ça s'est pas passé comme ça, les gens qui sont arrivés, ils étaient en panique, ils avaient vraiment peur, ils sont rentrés pour se protéger des gaz et de la police. Et tous les témoignages, finalement, vont dans ce sens-là. Et en fin d'après-midi, eh ben, tout le monde est emmerdé du côté de Castaner et autres, parce qu'ils ont propagé une vraie fake news tout au long de la journée. Alors petit à petit, ce qui était assez drôle à voir tout au long de la journée, c'est que les premières vidéos montrant l'intérieur de l'hôpital, où il n'y avait pas de violence, il y avait juste des gens paniqués qui couraient ou qui essayaient de rentrer, elles ont commencé à embêter les dirigeants. Et puis petit à petit, d'autres vidéos sont arrivées, les témoignages sont arrivés. France Info était obligé de mettre un peu d'eau dans son discours propagandiste de anti-manifestants, anti-lutte sociale. Ils ont été obligés de donner la parole à des infirmiers qui témoignaient dans l'autre sens. J'ai pas écouté dans l'après-midi pour savoir s'ils avaient fait complètement machine arrière. En tout cas, l'ensemble de la presse maintenant quasiment a fait machine arrière, ceux qui étaient mal partis en tout cas, en disant il n'y a pas eu d'attaque de l'hôpital, il n'y a pas eu de volonté d'embêter les malades ni de détruire l'hôpital, il y a juste eu ils ont cherché un local où rentrer dedans pour se protéger la répression.
Il y a eu une incompréhension aussi. Si, c'est ce qu'il faut bien comprendre, qu'il y a eu un personnel soignant qui avait arrivé, plein de gens qui s'inquiétaient pour effectivement les patients.
Paniqué, je pense.
Et donc c'est une cohue et c'est une panique un peu générale et qui a amené aujourd'hui à cette propagande. Je voudrais aller dans ton sens, si tu avais fini juste sur cette question-là, pour te dire effectivement que Libé a fait dans son sa chronique d'analyse des fausses informations un sujet sur cette question-là et en particulier sur France Info.
Parce que tu voulais parler de la fameuse photo.
Et oui, c'est magnifique ça. Alors moi je vois c'est vrai que ça m'a fait marrer parce que moi je vais sur France Info très tôt ce matin, enfin très tôt, on va pousser donc quand même c'est 9h, et puis je vois cet article qui parle donc de ce qui s'est passé à la Pitié-Salpêtrière. Puis je vois cette photo qui correspond à rien et moi je m'intéresse
qui
toujours...
Qui correspond à une vraie scène d'attaque en
oui,
fait.
Mais voilà, qui correspond effectivement. Alors c'est une photo, puisque tu le dis tout de suite, qui a été prise par un photographe de l'AFP et qui montre une personne avec une capuche sur la tête, avec une grille à l'arrière et puis en mouvement. Oui. Hein, donc la photo est assez dynamique. Donc effectivement, on a l'impression que ça correspond. Oui, sauf que moi, je m'intéresse souvent à toutes ces photos qui aujourd'hui alimentent les sites internet et tous ces articles. Et des fois, ça veut absolument rien dire ces photos. Et ce qui est très intéressant, c'est que même le photographe de l'AFP a expliqué qu'en fait, elle a été prise en fait devant le commissariat du 13e.
Qui a réellement subi une attaque, lui, pour le coup.
Voilà. Bon. Voilà. Donc, il y a des gens sur Internet qui s'énervent un peu, France Info, a priori, reçoit des critiques, et puis il y a un peu de la presse qui commence à se moquer. Donc, à 9h41, comme nous le rappelle Libération, France Info...
Change la photo. Eh oui.
Et il met une photo d'un autre photographe. Alors le premier, je ne l'ai pas cité, il s'appelle Geoffrey van der Asalf, excusez-moi pour la prononciation. Le deuxième photographe s'appelle Christophe Petit-Tesson et nous propose une photo d'un homme toujours avec une capuche sur la tête, avec un marteau brandit bien en l'air et on semble effectivement se trouver devant la pitié salpêtrière. Sauf qu'on apprend par la suite que cette photo, elle est tronquée, puisque les photographes et d'autres journalistes ont expliqué que cette personne avec ce marteau était en train de se faire engueuler par des manifestants et en particulier des gilets jaunes qui étaient très visibles avec leur petite chasuble pour le dire, qu'est-ce que tu fais, arrête, parce qu'il avait a priori déjà pété un truc. Hein. Mais ça n'apparaît pas sur cette deuxième mise en ligne de France Info.
Donc deuxième manipulation de France Info.
Qui se fait cette fois carrément là, qui se paye la honte sur Internet, la honte avec des articles de celui-ci dont je suis en train de vous parler, de Libération, et qui, Libération, a fait une mise à jour à midi. France Info a recadré correctement cette photo, et on voit effectivement ce manifestant à marteau et les d'autres manifestants en face qui tentent d'arrêter cet homme à marteau, on l'appellera comme ça. Bon, c'est très marrant parce que ça, c'est typique de ce qui s'est passé autour de toute cette affaire. Voilà, c'était juste un cas d'exemple, et comme quoi, des fois, la presse arrive à se retourner contre elle-même.
Ouais, donc là, il y a eu quand même la belle fake news hein, de ce mois de mai, qui commence bien, et qui est faite par le gouvernement et France Info. Et puis d'autres, hein, bien évidemment. Alors, on continue, on va parler un peu des profiteurs maintenant. Ah, l'écart Macron, cet échec total, et cet échec environnemental, et qui est aussi un énorme échec économique.
Alors, ça te fait marrer avant même que je commence. Je sais que tu aimes bien quand je parle des bus, Macron. Alors, c'était pour vous donner une information. Vous savez que j'aime bien vous donner qui rachète qui, comment ça fusionne. Non, parce qu'on vient de nous offrir des petites...
Des
cahuètes. Alors, du coup, ça fait du bruit peut-être à l'antenne, on s'en excuse, parce qu'on va s'en mettre aussi plein le bec. Donc, c'était pour vous raconter que Flixbus, je vais y arriver. Vous savez, c'est la multinationale allemande à la base. Vient de racheter Eurolines Easyline, qui appartient donc au Transdev. C'est une nouvelle fusion, rachat, concentration dans les bus Macron en France et d'une manière générale en Europe.
Du coup, il reste combien de compagnies en France ?
Deux. Ouais, je vais y venir. On ne sait pas combien. Je n'ai pas de chiffres à vous donner pour cet rachat. C'est pas une fusion, c'est donc bien un rachat. Tout ce qu'on sait, c'est que ça reprend les activités d'Euroline, Easyline en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en République tchèque, en Espagne. Et ça couvre en tout 25 pays, puisque je vous rappelle que vous avez des trajets interpays et puis entre les pays. Donc, pour vous donner un petit peu une idée quand même, Flixbus en France, c'est 7 300 000 passagers en 2018. De son côté, Euroline Easyline, c'est 2 500 000 passagers en 2018. Mais Flixbus, il faut bien comprendre que c'est 45 millions de passagers en Europe.
Oui, c'est beaucoup.
C'est un gros machin. Ils sont un peu moteur monopole en Allemagne, hein, quand même, du côté de Flixbus. Donc, 29 pays ont pas au niveau de la présence. Alors, il y a Webus en face. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi ça se concentre ? Parce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter les prix, vu que le bus se développe sur du bas prix. Ouais. Donc, on ne peut pas augmenter les prix. Alors, jusqu'à présent, il y avait aussi beaucoup de concurrence. Donc, il fallait baisser les prix pour attirer les passagers et les passagères.
C'est pour ça que les compagnies ne sont pas rentables.
Et ce n'est toujours pas rentable. Voilà, on peut le dire tout de suite, ce n'est pas rentable. Alors, le problème, c'est que comme on ne peut pas augmenter les prix, ben, il faut plus de passagers, donc concentration. Donc, tu rachètes tes petits copains. Et Webus et Flixbus avaient déjà racheté la concurrence. Donc, ça ne fait que se concentrer un petit peu plus. On ne sait pas bien jusqu'où tout ça va aller. Bon, l'idée de la Flixbus, c'est évidemment de s'étaler en Europe, de prendre vraiment position. Il ne faut pas oublier une toute petite chose. C'est Quibus, depuis fin 2018, on a appris que c'était Blablacar qui allait être à la manœuvre. Donc ça va s'appeler des Blablabus. Alors, en France, ça va continuer a priori à s'appeler des Webus. Mais ailleurs, ça va s'appeler des Blablabus. Le truc n'est pas facile à dire, je vous le dis tout de suite. Ça va plutôt être a priori, d'après ce que j'ai compris en Allemagne, Belgique, Luxembourg, que ça va s'appeler Blablabus. Pourquoi ça pourrait rester Webus ici ? Parce qu'il y a le partenariat avec la SNCF.
Et que la SNCF s'appelle Oui maintenant.
Et voilà, et que c'est donc Oui, Webus, vous voyez l'idée. Hein. Donc la SNCF a lâché l'affaire des Webus à Blablacar qui rappelle ça à Blablabus. Sauf ici, ça va rester Webus. Pourquoi ça devrait rester Webus ? Parce que l'idée, c'est de te vendre le train, le bus, le covoiturage. le pack tout en un. C'est bien pensé quand même, hein. Mais ça reste quand même qu'il y a de la concentration derrière, donc ça veut dire que si, ben, c'est une échelle qui n'est plus la même, puisque au lieu d'avoir des petites entreprises, en tout cas des entreprises de taille moyenne, comme certains avaient pu le penser, hein, dans le patronat au tout début de la loi Macron en 2015, ben, c'est carrément mort. Autant se le dire. Autre profiteur, alors, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait tout un truc sur Huawei, je ne vais pas revenir. Je vous ai parlé de la 5G, des problématiques en diplomatie, la Chine, des États-Unis. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on continue à avoir des soucis là-dessus. Alors, j'ai deux sujets. Allez, je vais continuer par celui qui me fait le plus marrer. C'est Madame May, Theresa. Oui, de l'autre côté de la Manche. Vous voyez, vous la remettez. Eh bien, elle a dû virer son ministre de la Défense, M. Williamson, Gavin de son prénom. Pourquoi ? Parce qu'elle pense, enfin, elle ne pense pas, elle l'a accusé publiquement d'avoir fait fuiter des informations concernant Huawei et la 5G. Alors, en fait, ça remonte au 23 avril dernier. Il y a une réunion du Conseil national de sécurité. C'est très sérieux, le Conseil national de sécurité. C'est-à-dire que là, on est quand même dans des affaires de renseignement interne qu'on n'est pas censé raconter à l'extérieur. Et pendant cette réunion, il a pris une décision importante, un peu comme en Allemagne, je vous en avais parlé, c'est d'autoriser Huawei à participer à la construction du réseau 5G. Donc c'est une décision importante. Je vous rappelle, pour faire bref, que les États-Unis d'Amérique s'en prennent à Huawei parce que c'est chinois, parce que il y a peut-être des tentatives de Huawei, je souris en le disant, d'espionnage à travers tout ça, et donc le déploiement de la 5G pourrait être un moyen pour Huawei et donc la Chine, les autorités chinoises bien évidemment, de favoriser les possibilités d'espionnage. Hein, voyez. Donc, je vais venir après sur une autre discussion. Donc, le truc c'est que tout de suite derrière cette réunion qui est quand même classée secret défense, un truc dans le genre, le Daily Telegraph informe tout le monde, publiquement, que cette décision a été prise. Alors qu'aucune annonce publique n'a été faite par les autorités. Et alors ça a mis en fureur, a priori, Madame Theresa May, hein, qui a donc trouvé un coupable, Monsieur Gavin Williamson, ministre de la Défense, qui lui, je le cite, jure sur la tête de ses enfants que c'est pas lui qui a fait fuiter cette affaire. Il faut se... Alors, Le Monde nous rappelle une petite chose très, très marrante que moi, j'avais pas lue à l'époque. C'était que, début avril, il y a eu, pendant les réunions sur le no deal, enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, hein, pour savoir l'Europe, pas l'Europe, l'Union Européenne, tout ça, Madame May, elle avait fait une réunion dans laquelle elle avait confisqué les téléphones portables, un peu comme les profs à l'école, vous voyez ? C'est-à-dire que tout ça s'était mis, ou alors dans un film de science-fiction ou de thriller un peu particulier, tout le monde avait mis son petit téléphone portable dans une petite panière, en tout cas moi je l'imagine comme ça, je suis pas sûre que ça a été fait comme ça, sous clé en tout cas. Pendant 7 heures, ces ministres n'ont pas pu avoir leur téléphone portable avec eux et avec elle, et elle est allée ensuite faire un discours aux journalistes derrière cette réunion. Les ministres étaient toujours enfermés dans une pièce sans leur téléphone portable, et pendant ce temps elle parlait aux journalistes, parce qu'en fait elle avait trop peur des fuites. C'est-à-dire que ça va tellement mal dans son gouvernement qu'on en est là, c'est-à-dire que chacun essaye un petit peu de aussi parler à la presse, et là donc il y a des fuites, sauf que ça fâche un peu tout le monde, parce que là c'était quelque chose qui devait être un petit peu mis dans la diplomatie, parce que c'est une affaire difficile, cette 5G avec Huawei. Alors on va continuer avec Bloomberg, qui estime que Vodafone nous a pas dit toute la vérité, c'est-à-dire que d'après Bloomberg, Vodafone aurait détecté des portes dérobées, enfin des vulnérabilités dans des équipements de Huawei.
Donc Vodafone, c'est l'équivalent de Huawei au niveau européen, je crois.
Ouais, et là, cette vulnérabilité aurait été découverte sur le réseau fixe en Italie, donc sur le système qui fournit les services Internet. Et cette vulnérabilité aurait été en place entre 2009 et 2011. Vodafone explique que avoir collaboré avec la multinationale chinoise pour résoudre tous les problèmes.
Du côté donc c'est des portes dérobées involontaires.
Alors, c'est pour ça que je parle de vulnérabilité, parce que vous allez voir, tout est affaire de vocabulaire. Mais Bloomberg estime en disant qu'il y a eu des vulnérabilités qui auraient été découvertes encore en 2012 et que toutes n'ont toujours pas été résolues, et que ça pourrait toucher le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, puisque c'est les mêmes utilisations et qu'il y aurait les mêmes problématiques. Du côté de Vodafone, on nie et qu'on explique vraiment avoir tout fait avec la multinationale chinoise pour bien contrer toutes ces problématiques. Sauf que d'un côté, on parle de portes dérobées, de l'autre côté, de vulnérabilité. La vraie question, Elle est de savoir, est-ce qu'il y a une erreur dans le code ? C'est-à-dire quelqu'un s'est...
Non, mais il y a des bugs dans les codes, même dans les codes.
Voilà. Et donc, il y a un trou. Ou est-ce que dans le code, on a fait un petit tour de passe-passe...
Volontaire.
Volontaire, donc. Pour qu'on puisse espionner. Eh bien, c'est toute là la question, parce qu'en fait, on n'en sait strictement rien. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que Vodafone a tenté un petit peu de camoufler des choses. Enfin, on en est sûr. Si, ne dit pas toutes les choses, semble pas tout à fait transparent parce que y a un partenariat économique derrière tout ça. Et que Vodafone semble avoir trouvé un partenaire économique bien plus intéressant que qui que ce soit d'autre et ne veut pas mettre ça à terre. Et donc, a fait son petit train-train et a continué à travailler avec les Chinois. Voilà, voilà, voilà pour la suite de ces aventures de 5G.
Petite rubrique énergie et environnement autour du recyclage et de l'inutilité du recyclage aujourd'hui.
Tu veux dire que ça sert à rien quand je mets mon papier dans une bonne poubelle ?
Ouais, l'impact est quasi. Alors, l'impact existe, mais il est très très faible en fait. Hein, tu vois, tu fais toutes tes poubelles, tu les tries toutes tes poubelles, et si tu as l'impression d'avoir fait un truc bien, et si tu n'as pas utilisé de voiture pendant la semaine, ton impact il est 500 fois plus fort. Tu vois, le recyclage, ça n'a quasiment aucun impact. Pour une raison simple, c'est que ça nécessite beaucoup d'énergie, du transport aussi. Et du coup, à la fin, on n'y gagne pas beaucoup.
Ouais. Donc tu veux dire que plus en fait les gens ils sont écolos en fait
C'est pas alors le recyclage c'est pas écolo.
Non mais les gens par exemple qui se disent j'ai pas de voiture, je roule en vélo, je fais attention à pas polluer et tout, en fait c'est souvent aussi ceux et celles qui vont être le plus attentifs peut-être à leur tri.
Oui mais
et
bon,
qu'en fait ça sert à rien.
Ça sert à peu de choses, pas à rien mais à très très peu de choses.
Tu me casses une idée là.
Non, le recyclage est toujours très très faible. Et on a un exemple très très simple, je vais en donner deux d'exemples en fait. Là le premier c'est bon, il y a déjà eu plein d'articles mais je suis tombé sur un article belge qui étudie l'impact des 10 milliards de capsules Nespresso. Vous savez, c'est des capsules en aluminium. Il y en a 27,7% de ces 10 milliards dans le monde qui sont recyclés. Et c'est pas les seuls à faire ce genre de capsules en aluminium. Et c'est du point de vue belge hein, dont je vous parle. Ils ont étudié d'où venaient ces capsules. Donc c'était créé il y a longtemps, hein, dans les années 70. Et au départ, c'était recyclé en Suisse, puisque ça venait de la multinationale suisse. On rappelle, Nestlé. Maintenant, aujourd'hui, les capsules belges, les 27,7% qui sont récupérées et qui vont dans le cycle du recyclage, vont aux Pays-Bas. Alors, c'est moins loin que la Suisse par rapport aux Belges. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. Ces capsules contiennent un peu de plastique, de l'aluminium, un peu de café. Il reste toujours un peu des trucs. Donc, il faut tout séparer, tout nettoyer. Ensuite, dans la capsule, il y a un thermoplastique, en fait, alors qui sert à fermer. Il y a un filtre et il y a une laque extérieure. Alors, tout ça, il faut que ça soit brûlé avant qu'on récupère vraiment l'aluminium. Tout ça, et pour être brûlé, ça va en Italie. En mince, c'est loin. C'est un peu plus loin. Donc voilà, au bout du compte, le calcul dit que pour ces dosettes Nespresso belges, elles font à peu près 3000 km lors de la phase de recyclage. 3000 km, ça efface l'intérêt total du recyclage. Puisque non seulement il faut 3000 km, mais il faut de l'énergie pour brûler, pour enlever le vernis, l'opercule, les parties de plastique qui resteraient, toutes ces choses-là. Et ensuite, elle remonte en Allemagne pour redevenir des feuilles d'aluminium qui serviront à nouveau à faire des capsules ou d'autres choses en aluminium. Et du coup, la démonstration est assez claire, c'est que le recyclage, je l'ai dit au début, ça sert à rien, sauf si c'est fait à l'échelle ultra-locale, c'est-à-dire si on ne sort pas des 50 km hein, autour de là où on produit et on utilise ce qui n'existe pas dans le monde capitaliste moderne. Du coup, il n'y a aucun intérêt à recycler ces capsules de Nespresso. Alors, on va me dire, est-ce que c'est mieux de les jeter ? C'est pareil, en fait. Le bilan, il est le même. Si on les jette, elles seront brûlées, l'énergie sera en partie récupérée, et au final... Voilà, ça sera le même impact. Après, il faut refabriquer de l'aluminium. Mais vu l'énergie dépensée pour le recyclage, on n'y gagne pas. La seule solution, c'est de ne pas fabriquer ces capsules d'aluminium. C'est la seule solution hein, qui existe. Alors, il y a la même problématique sur le verre. La France et d'autres pays ont développé le recyclage du verre, qui est une aberration aussi environnemental énorme. Aujourd'hui, une partie des bouteilles sont fabriquées avec un pourcentage qui va de 10 à 70% de calcin. Le calcin, c'est le verre recyclé qui est concassé, qu'on rebrûle. Alors, c'est des milliers de degrés pour brûler du verre. Et on en refait des bouteilles. Sauf qu'en fait, c'est pareil. Alors, il y a un gain quand même sur le recyclage des bouteilles de verre. Mais le gain est faible parce qu'il faut aller là où on brûle. Après, il faut ramener à l'usine d'embouteillage, etc. Les kilomètres plus l'énergie énorme pour l'énergie pour casser le verre et pour le refondre et le réintégrer dans du nouveau verre, c'est catastrophique. Alors il existe une solution qui est beaucoup plus efficace, qui est la consigne. La consigne, ça marche toujours très fort en Allemagne. Donc la consigne, elle permet de récupérer les bouteilles de verre. Elles sont lavées. Alors ça nécessite un peu d'énergie, de transport et de lavage. D'ailleurs, tous les calculs montrent, si ça fait plus de 300 km entre l'endroit de récupération, de lavage et d'embouteillage ou de remplissage de la bouteille, c'est pas rentable non plus, la consigne. Enfin, les données sont sur le retraitement, la réutilisation, nécessitent des échelles courtes. C'est-à-dire, on est au niveau d'un département. Si on sort, on perd beaucoup de l'intérêt. Bon, sur la consigne, on gagne presque 80% d'énergie à consigner plutôt qu'à recycler. Donc c'est énorme. Et ça dure longtemps. Par exemple, une bouteille de bière en moyenne, l'exemple que j'ai lu récemment, c'était sur une bouteille de bière, elle est réutilisée 19 fois en moyenne en Allemagne. Après, bon, il y a des cassages en cours de route, c'est pour ça qu'elle n'est pas réutilisée à l'infini, puis au bout d'un moment, ça s'abîme quand on arrive à abîmer le verre, malgré tout. Voilà. Et c'est en train de revenir tout doucement en Alsace. Alors c'est sûrement le fait que ça soit proche de l'Allemagne que cette habitude revient petit à petit. Elle n'a pas totalement disparu en Alsace, mais c'était caché un petit peu. Et c'est en train de revenir, et c'est la bonne nouvelle. C'est que la vraie solution, c'est de pas d'aller jeter son truc de verre, c'est bien de la ramener au supermarché, ou là où vous avez acheté, pas au supermarché, mais là où vous avez acheté, et de récupérer votre consigne, c'est-à-dire un petit peu d'argent. Et ensuite, on nettoie et on remplit la bouteille. Voilà, c'était juste pour rappeler qu'il y a des solutions bien mieux que le recyclage, qui au pire, a un impact quasi nul, et au mieux quelques pourcents, ce qui est totalement négligeable sur l'ensemble de la destruction de la planète.
Alors, juste parce que ça me fait marrer, d'accord, parce que j'aime bien me moquer, je vais vous raconter très brièvement les malheurs des actionnaires. C'est les actionnaires, le Bayer, qui sont pas contents, ils sont malheureux et malheureuses, les pauvres actionnaires.
Ah, c'est ceux qui ont acheté Monsanto.
C'est ça, et c'est lié. Et il y a eu donc une assemblée générale annuelle qui a été organisée, c'était une leçon vendredi dernier, si je vous dis pas de bêtises, et il y a une majorité d'actionnaires qui a désapprouvé l'action de l'équipe dirigeante.
Ouais, non mais ils ont racheté.
Ils se sont fait latter, a priori, à l'Assemblée générale.
Ils ont racheté,
excusez-moi pour l'expression, mais
un gros groupe. Mais le problème, c'est que toutes les affaires du glyphosate sont en train de faire couler Monsanto.
Et en fait, il y a surtout que il y a une chute du titre à la bourse, et que dit chute du titre dit valeur des actions moins bien, donc actionnaires malheureux.
Bah oui.
Tristesse, donc colère. Donc, Assemblée Générale qui se passe pas bien. On en rigole, mais n'empêche qu'à côté de ça, on a appris cette très mauvaise nouvelle, c'était mardi. C'est l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis d'Amérique qui a décidé que le glyphosate n'était pas cancérigène pour l'être humain.
Oui, mais bon, aux États-Unis, on n'a plus d'espoir. En fait.
Ouais, enfin, la justice des États-Unis d'Amérique est allée un peu dans le sens. Donc, bon. Voilà, c'était juste pour dire ça. C'est allé très vite, mais c'était juste... Il faut...
Mais d'ailleurs, juste une petite info là-dessus, un truc un peu marrant. Si vous allez sur le site du ministère de l'Agriculture, il y a un petit truc sur les fromages au lait cru. Et il y a une belle propagande anti-fromage au lait cru en disant « Si votre enfant a moins de 5 ans, ne lui donnez pas de fromage au lait cru, c'est ultra dangereux. » Il y a toute une propagande comme ça, anti-fromage, anti-produits naturels un petit peu. C'est drôle de voir ça, c'est triste, ça fait pleurer, ça fait vomir, vous ressentez ce que vous voulez, c'est juste ridicule. Parce que dans le même temps, ils ne disent pas ne mangez pas des fruits pleins de glyphosate ou pleins de produits chimiques. Donc ils laissent entendre que les fruits pleins de, ou légumes pleins de produits chimiques, pleins de glyphosate, pleins de merde, c'est bon à la santé, alors que le fromage et les crus bio par exemple, c'est mauvais à la santé. Comme quoi la propagande de l'industrie agroalimentaire, elle est très très forte au ministère de l'Agriculture. C'est juste une honte totale, ce ministre et son ministère. Allez, on va parler cinéma.
Alors, si vous avez envie de voir...
Tu spoil pas trop.
C'est pour ça, je vous préviens tout de suite. On va vous parler du film de Shinichiro Ueda. Si vous avez envie de voir Ne coupez pas et que vous n'avez rien envie d'en savoir, alors vous changez de radio ou alors vous bouchez les oreilles puis vous faites pendant 10 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, vous allez devoir accepter que je tente d'en parler sans trop en parler. Ça fait deux jours que j'y pense. Je ne sais pas comment faire. Pourquoi nous avons cette position avec Laurence? Parce que je t'ai traîné très facilement d'ailleurs voir ce film et que nous...
Mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans.
Voilà, et que j'étais un peu dans la même position que toi à part 3-4 infos.
Moi j'avais noté film zombie. Bon, comme j'aime bien les films de zombies...
Je t'ai attiré en te disant, vous savez que dans cette émission on est très pop culture.
Un peu
beaucoup. Et donc, aux zombies, nous, tout de suite, ça nous parle. Hein. On se dit, voilà, prendre le Jim Jarmusch qui sort le 14 mai prochain en même temps que le Festival de Cannes. On l'attend avec impatience, il faut le dire. Il y a une belle brochette en plus
de comédien. Bien quand même, mais, bon.
Mais on va y aller quand même. Bon. Non, parce qu'on m'aurait dit un nouveau film avec Jarmusch, je ne sais pas si j'y serais allé tout de suite, alors que là, franchement, on va y aller tout de suite. Bon. Ce film, on y va donc, on n'en sait pratiquement rien. Voire un peu rien quand même, il faut le dire. Et ça a été une vraie surprise. 1h36 quand même de petit bonheur. Et comme je vous le disais en introduction, pour moi ce film va franchement rester dans des films cultes. Et ça l'est déjà. Alors, si toi tu, qui nous écoutes, tu es toujours avec nous, on va pouvoir un petit peu t'en parler. Alors c'est un film qui n'a pas coûté bien cher. Alors selon les articles et les informations, on nous parle en dollars ou en euros. Donc on peut penser que ça va coûter à peu près 25 000 dollars
à faire le film.
En tout cas, c'est moins de 30 000 euros à faire ce film. Il a été fait sur 8 jours. Très très bref. Alors, au début, moi, on m'avait dit que c'était un film d'études et d'école, ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce que le réalisateur n'a jamais fait d'école de cinéma. Par contre, les comédiens, les comédiennes sont bien issus d'une école d'art dramatique de Tokyo. C'est tout à fait le cas, ils sont bénévoles. D'ailleurs, comme le réalisateur l'explique dans une interview, tout le monde a fait assistant sur le film. Hein, tout le monde a servi à tout plein de choses. Donc...
Ouais, quand on n'a que 25 000 dollars pour tourner un film d'1h36, forcément.
Voilà, alors c'est pas compliqué. Son premier film, il a déjà fait des courts, il a déjà fait des longs, sauf que c'est son premier diffusé. Alors le film a d'abord été diffusé dans une petite salle à Tokyo, hein, comme rapidement. Et puis ça a pris de l'ampleur jusqu'à ce que ça atteigne des mesures... considérable, c'est considérable ce qui s'est passé. 300 salles, 15 millions d'euros ou de dollars, ça dépend si les sites, de recettes, 30 millions dans le monde.
30 millions de recettes pour un film qui a coûté 25 000 dollars.
Des diffusions dans des festivals à travers le monde, un truc de dingue, pour un film, rappelons-le, avec des zombies dedans.
Ouais.
Japonais, donc pas toujours facile aussi de vanter le cinéma japonais à travers le monde, mais Pourquoi nous on est très contents de ce film? Parce que c'est un film qui est... C'est un ovni. C'est une comédie avec des comédiens et des comédiennes absolument incroyables, au top.
Ouais, alors c'est une comédie en fait. Faut avoir... Alors ça, on s'en rend pas compte au début.
C'est une farce. Oui, 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 nous ne sommes pas dans le thriller. D'ailleurs, à notre ton, je pense que vous l'avez tout de suite compris. C'est ça qui est magnifique. C'est que c'est surtout une ode à ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire à la technique. On vous rappelle, hein, parce que des fois, quand on va au cinéma, on l'oublie. C'est de l'illusion, le cinéma. Il se passe des tas de choses. Et ce réalisateur est assez fan. Il a un petit côté geek que moi je trouve extrêmement sympathique. Il est encore tout jeune, hein, malgré tout. Il s'est développé sa propre culture cinématographique en faisant ce que beaucoup d'entre nous avons fait, c'est-à-dire en regardant du cinéma, et puis en allant filmer. Et puis en regardant du cinéma, puis en allant filmer. C'est-à-dire qu'il s'est fait une culture en regardant le cinéma des autres et en apprenant un petit peu comme ça le travail aussi cinéma. Alors, il s'est renseigné, hein, bien évidemment, derrière, on va vous passer tous les détails. Mais il arrive à nous parler du cinéma et à nous mettre un film dans le film, dans le film, dans le film.
Voilà, c'est ça.
J'en ai fait un trop, je crois.
Alors, techniquement, il y a un truc assez incroyable, c'est que la première demi-heure, c'est un seul plan-séquence. On rappelle un plan-séquence, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est que la caméra, il n'y a pas de coupure. Ça ne s'arrête jamais, tout est joué en direct pendant plus de 30 minutes.
37 minutes, précisément.
Donc, on n'a pas le droit de faire d'erreurs, on n'a pas le droit de faire de conneries. Et c'est énorme, parce qu'on est pris dans le truc, on se dit, mais il se passe des choses qu'on comprend pas. Et puis après, la dernière partie du film, ça explique, ça explose, c'est inventif, un truc de dingue.
Deux jours pour faire ce plan séquence. A priori, il y a eu plusieurs prises.
J'imagine, plusieurs prises.
Mais ça, il explique.
Il est fait en une prise, mais ils en ont fait plusieurs avant de la réussir.
Voilà. Parce qu'en fait, c'est très compliqué, un plan séquence. Il faut que tout soit bien enchaîné. Et c'est là où on a déjà la magie du cinéma qui opère, si vous me permettez ce mot de magie, je ne l'emploie pas tous les jours. Mais c'est là où le plan séquence est magnifique. C'est qu'il faut avoir, vous avez quelqu'un qui a une équipe, mais en tout cas, tout a été pensé pour que ça se suive. Et dans l'histoire du cinéma, il y a des plans séquences très célèbres, et celui-ci va le rester parce que c'est 37 minutes de bonheur, où il faut quand même avoir imaginé tout ça, c'est-à-dire que vous avez un placement de caméra, des placements de comédiens,
de la lumière,
des enchaînements, il se passe des choses, et en plus là, comme je vous dis pas, il y a des zombies, du sang et tout ça. Donc c'est aussi quelqu'un, quand je vous dis, il a un petit côté geek, c'est qu'il est, ça le passionne, le sang, le faux sang. Donc on sent que les effets spéciaux, il y a pris un trip absolument phénoménal à mettre ça en scène. Et c'est ça qui est génial, c'est finalement, alors toi et moi on aime bien aller au cinéma, puis comme on aime bien aussi les histoires de zombies, alors nous on n'est pas du genre à parler en salle, je vous le dis, si jamais toi demain t'es à côté de moi, je te tape si tu causes, mais tout de suite en sortant on s'est dit, mais au début on a eu les mêmes sensations. Des plans très longs, du bavardage qui sert à rien.
Puis des trucs qu'on comprenait pas.
Et c'est ça qui est magnifique. Et bon, on veut pas trop vous en dire, mais en même temps, maintenant que c'est fait, le film commence à être connu, vous allez en apprendre. Et puis peut-être que vous avez vu la bande-annonce qui
raconte pas tant que ça.
Non, mais qui dévoile du coup quand même les deux parties. On se pose des questions quand même. Et c'est cette deuxième partie qui va nous raconter cette magie du cinéma, l'illusion, et qui nous fait rentrer dans le deuxième film.
Voilà, et c'est la deuxième partie, donc, qui est le film du film, à tourner ce coup-ci. Avec des plans normaux, avec des coupures, etc.
Et avec une image qui n'est pas la même, la lumière n'est pas la même.
Beaucoup plus belle, beaucoup plus chiadée, et qui est à tomber par terre d'humour.
Là, et tout le long, évidemment.
Parce qu'au début, il n'y a pas trop d'humour.
Nous, on s'est quand même raconté, alors c'est peut-être parce qu'on a un côté geek aussi, mais on s'est raconté quand même des scènes en sortant, on s'est refait des dialogues, on s'est fait des mouvements, en plein milieu de la rue, quand même. Bon, on est plutôt jeune, donc on a dû se faire repérer. Mais il y a ce plaisir-là dans ce film, et vraiment, c'est à la fois une très belle construction artistique, c'est une belle création artistique, il y a de l'idée. C'est une belle création technique de cinéma. Moi, je trouve que c'est quand même vachement classe d'arriver aujourd'hui à nous montrer ça. Et puis, c'est quand même aussi la preuve que face à des multinationales à la Marvel qui nous sort un film de 3 heures qui a coûté des millions,
on peut faire un film génial avec 25 000 $ qui écrase tout le monde.
Et encenser la planète entière, mettre des gens en folie devant un tel film, parce qu'il n'y a pas besoin d'être fan de zombies. Déjà, si vous n'aimez pas les zombies, c'est pas grave. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu es resté avec nous, parce que tu t'es dit, je peux tout savoir, j'irai pas le voir, mais vas-y quand même, toi qui m'écoutes, parce que c'est aussi ça le cinéma, c'est savoir être dans le trompe-l'œil. Et c'est exactement ce qui va bien, je trouve, à ce film, c'est du trompe-l'œil, c'est du mensonge. Et parce que c'est ça le cinéma, c'est du mensonge, pour nous amener à nous raconter des choses. Et c'est magnifique de drôlerie, c'est bien fait, c'est bien construit. On a ensuite en plus sur le générique le film du film du film.
Ah ouais,
donc tout ça, c'est
la mise en abîme, elle ne s'arrête jamais.
Jusqu'au dernier moment, on est quand même à l'intérieur et il faut rester vraiment jusqu'au bout de ce générique. Voilà, donc c'est un film qu'on vous invite vraiment à aller voir. Ça va être aussi du bouche à l'oreille, il joue que dans une salle à Lyon.
Alors maintenant il joue à la Fourmi,
ouais.
Une petite salle dans le 3e.
On s'en fout de l'arrondissement, vous allez bien trouver.
Voilà, Fourmi, c'est dommage qu'il l'ait relégué un petit peu dans cette salle, donc ça s'appelle Ne coupez pas.
Ouais, c'est dommage effectivement qu'avant, fut une autre époque où dans le cinéma on pouvait attendre le bouche à oreille et faire grossir comme ça un film. On peut espérer que celui-là, ils vont le garder un petit moment...
À la Fourmi.
À la Fourmi, bah moi en tout cas je l'espère. Voilà, c'est un très chouette film de Shinichiro Ueda. On espère qu'on aura d'autres films. Maintenant, après, il va être attendu un petit peu au tournant, quoi.
Ouais, non, mais c'est un truc unique.
Et vous allez voir,
il
y a un spin-off, enfin, il y a plein de choses. Il y a toute une histoire qui se développe aussi.
Non, un film comme ça, il y en a un tous les 15 ans, donc c'est.
Parallèlement
voilà,
ce film, ouais.
C'est rare, quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là, puisqu'il est bientôt 58 et que nous avons fini le Canyon Info. Tu voulais peut-être faire un petit agenda ?
Ouais, très bref.
Allez, vas-y.
Samedi 4 mai.
Donc samedi prochain.
C'est ça. Et tout à fait ça, il y aura la Canaparade, la marche mondiale du cannabis. Donc le départ se fait à 14h30 place Carnot. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est un mouvement international, hein, comme tous les ans, bien évidemment. 700 villes du monde, d'après le petit tract très joli que j'ai sous les yeux. C'est pour Ensemble, exigeons la libération des prisonniers et des prisonnières, puisque je vous rappelle qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont tôle pour rien.
Pour avoir fumé, alors moins...
Mais non, je rappelle qu'il y a l'histoire d'amende, tout ça, mais...
Ouais, c'est ça.
Enfin bon, pour pas grand-chose, du style t'as eu beaucoup sur toi parce que ben, t'as acheté beaucoup d'un coup, par exemple, ou tu ramènes de quelqu'un d'autre chez qui t'aurais, par exemple, fait une plantation collective, j'imagine des tas de situations, hein. Tu te fais choper par la police, sur le coup, t'es plus consommateur-consommatrice, tu peux être vendeur-vendeuse. Là, et là, tu ramasses. Alors, ensuite, il y a ça. Il y a la légalisation du cannabis récréatif et thérapeutique, ce qui est bien parce qu'il faut qu'il y ait les deux.
Parce que le thérapeutique est en cours. La France doit être le pays d'Europe le plus en retard.
Fermé voilà. Sur la question, ouais.
Voilà. Mais au niveau thérapeutique, il y a des progrès. Par contre, au niveau récréatif, la France, c'est le tiers-monde de la légalisation du cannabis.
Et le dernier point, moi, qui me plaît beaucoup, c'est l'autoproduction et l'indépendance. C'est-à-dire que le but de tout ça, c'est pas qu'on ait des multinationales qui viennent nous vendre demain notre herbe ou notre tamien, mais bien qu'il y ait une capacité sur l'autoproduction ou la petite ferme locale. Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est bien aussi d'avoir ça. Moi, je trouve dans les idées et comme valeur, je trouve ça très chouette.
C'est en train de se passer. On a vu des gros groupes comme Pernod Ricard racheter aux États-Unis des gens qui font des choses à partir du cannabis parce qu'il y a un business énorme qui grossit. Effectivement, avec une légalisation ou au moins une dépénalisation. Alors, au moins, non, mais il faut une légalisation pour que ça marche.
On ne peut pas l'avoir. On arrête d'avoir des trucs
avec,
au milieu, là.
Voilà, une légalisation. Il faut aussi quand même légaliser, mais essayer de sortir un maximum du capitalisme. Quand même, sinon
et puis qu'on arrête aussi cette hypocrisie sur ces plaisirs récréatifs quand en même temps on laisse les gens se bourrer la gueule. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a quelque chose de...
Ou prendre des opiacés médicamenteux.
Voilà, il y a quelque chose. Sauf qu'en général, tu le fais pas tout de suite d'une manière récréative, les opiacés médicamenteux. C'est d'abord, c'est pour te soigner. Et ensuite, après, tu continues à les prendre parce que ça te fait du bien. Par contre, l'alcool, c'est souvent récréatif, jusqu'à évidemment des problèmes plus importants qui peuvent vous toucher. Mais en tout cas, il y a une belle hypocrisie puisqu'on a toujours un président qui vante le vin, mais pas la beuh.
Bah non. Voilà, il est 20h passé de 25
juste
secondes.
Juste, lisez, c'est pas lit dans Charlie Hebdo de cette, la, c'était la cette semaine, la semaine dernière. C'est un très bel article où on a une personnalité qui va demander à M. Macron le conseil qu'il légalise.
Il est allé à une fête à l'Elysée, un prix qui était remis à un écrivain que nous détestons, et il est allé voir Macron et il lui a dit, c'est quand que vous légalisez. Bravo.
Et on lui a répondu, c'est pas tout de suite, donc je trouvais que ça tombait bien comme article. Voilà, c'est pas le centre de l'article. Mais...
Et Jean-Louis Aubert lui racontait que quand il était allé à l'Elysée sous Mitterrand avec Coluche, ils étaient allés fumer des joints dans les toilettes de l'Elysée. Voilà, c'est la classe.
Voilà. Enfin bon, c'était juste la petite blague et voilà.
Bye bye, on se retrouve la semaine prochaine.
Ciao.